Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro des Carnets de Région, le magazine collaboratif des radios associatives du Languedoc-Roussillon. Durant tout le mois d'octobre 2013, c'est Radio Aviva qui sera rédactrice en chef de cette émission. Au programme de ce Carnet de Région, on parlera de vin, beaucoup de vin. C'est la saison des vendanges et l'étrange météo de cette année soulève un certain nombre de questions. Radio Lodève et Radio Pays d'Hérault nous emmèneront d'abord chacune de leur côté dépecer les cèpes de vignes de la région et voir ce qu'il en sort. On rejoindra ensuite Ludovic Thérol de 48FM dans son beau pays de Lozère où les étudiants du master européen Vinifera venaient embouteiller les grappes fraîchement coupées. Non loin de là, Radio Escapade nous donnera des nouvelles de la jeune communauté de communes du Piémont-Sévenol dont le président a convoqué il y a peu des états généraux de l'économie. Dans les Cévennes toujours, on reviendra avec Radio Lodève sur l'expertise dont a fait l'objet il y a peu le territoire Causse et Cévennes suite à sa classification au patrimoine mondial de l'UNESCO. À Narbonne, avec RCF Pays d'Aude, on prendra des nouvelles du Muréna, le futur musée de la Romanité. On terminera avec deux sujets à Montpellier. FM+ reviendra d'abord sur la belle troisième place obtenue par Montpellier au classement des villes où il fait bon étudier. Un classement paru récemment et établi par le magazine L'Étudiant. Et enfin, avec Radio Aviva, nous irons à la rencontre des 2 millionièmes visiteurs de l'aquarium Mare Nostrum. Cette fois, ça y est, les vendanges battent leur plein. Depuis lundi dernier, on s'active au pied du Larzac dans le village de Péguerolles de l'Escalette qui possède la plus petite cave coopérative de l'Hérault. On en parle avec son directeur David Réverbel au micro d'Alain Mendez de Radio Lodève.
C'est tout nouveau, on a démarré ce matin. On a souvenir en 1997 où on avait attaqué le 3 octobre. Ce n'est pas pour l'instant pénalisant, la météo est clémente. On rentre des cépages Pinot aujourd'hui et Merlot à une maturité qui a l'air excellente. On a de très très beaux raisins, donc je pense que voilà, ça va être un millésime froid peut-être puisqu'on va vendanger au mois d'octobre, mais c'est pas pour ça que... En 97, j'ai souvenir qu'on avait fait une très très bonne cuvée, donc voilà. La production aujourd'hui, c'est 3500 hectos. On vend une bonne partie en vente directe sur des systèmes de bouteilles, bag-in-box et du vrac. C'est un petit peu atypique, c'est la plus petite cave de l'Hérault et je demande à tous les négociants français de ne pas laisser tomber Péguerolles. On a besoin d'eux encore. On fait du vin en direct, mais on sert aussi des négoces français et on sait le faire et on sait bien le faire. Donc après une énorme crise de 2007, 2008, 2009, le tarif des vins commence à remonter. Je pense que au niveau mondial, on commence à équilibrer la consommation avec la production. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et nous, il faut qu'on continue à notre caveau de vente à dynamiser, qui est ouvert tous les vendredis toute l'année. C'est un caveau un peu atypique, puisque c'est un caveau qui a été créé dans la cave. Et notre point numéro un, c'est de faire découvrir de plus en plus la vallée de Péguerolles à tous les gens qui passent aux abords de la 75. C'est notre mission numéro une. Donc on parlait des premières vignes de la Méditerranée, les portes de la Méditerranée, c'est clair qu'on quitte ce magnifique plateau du Larzac. Et dès qu'on quitte le Larzac, on commence à descendre le pas de l'escalette et là commence la vigne et l'olivier, voilà, où on a des altitudes qui vont jusqu'à 450 mètres. La vigne réagit très bien et l'olivier aussi. Et c'est vrai que ce sont vraiment les portes de la Méditerranée, je pense, sur l'axe centre, c'est Péguerolles de l'escalette. Ouais. On est là le plein cœur des terrasses du Larzac, voilà. Cette appellation qui comprend, qui va jusqu'à Puy-Chabon. Mais c'est vrai qu'on a un terroir qui s'y prête énormément. Et c'est vrai qu'on a nos terroirs à étagères. Et je pense que, voilà, une des grandes parties des terrasses du Larzac, on peut dire aujourd'hui que c'est Péguerolles de l'Escalette. Oui.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gare.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gare.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en langue de Croustillon.
On reste dans le vin puisqu'on est au cœur d'une année qui devrait être propice à la région. Les bonnes conditions climatiques du mois de septembre ont favorisé la maturité du raisin. Malgré le caractère tardif des vendanges qui commencent en moyenne 15 jours après la date habituelle, le degré d'alcool moyen devrait être équilibré. 2013 pourrait bien être l'année du Languedoc. Jean-Michel Sagnier, président de la cave coopérative de Saint-Bosile de la Silve, était au micro d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault.
Et je crois que cette année, on est relativement privilégié puisque contrairement à d'autres régions viticoles françaises, nous avons, et même au niveau de la région, pas trop subi l'impact des fortes pluies. Nous avons une récolte qualitative avec une quantité moyenne. On fera, je pense, une jolie récolte cette année, aussi bien en qualité qu'en quantité. sans être de la récolte 2011, on est bien. Enfin, ça.
Et quel est l'état du marché? Autrement dit, est-ce que les cuves aujourd'hui sont pleines?
Non, non, non. Nous sommes sur un stock. D'ailleurs, la Fédération des caves avait fait une étude sur les stocks en cours. Nous sommes en dessous de 20 millions d'hectos, ce qui représente des stocks relativement bas depuis plusieurs décennies. Donc aucun souci, je pense, sur la commercialisation, d'autant que nous avons un produit qui sera de qualité et une demande sur le marché, puisque les autres régions viticoles françaises vont être en déficit.
Et côté quantité pour cette année, un peu plus du tiers de la récolte est déjà en cave. La prévision de la récolte en Languedoc-Roussillon est maintenue à 13,2 millions d'hectolitres de vin, soit 1 million de plus comparé à l'an dernier.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Cette semaine, les étudiants du Master européen Vinifera de Supagro Montpellier étaient en Lozère pour embouteiller un vin récompensé par la promotion précédente. Des étudiants venant du monde entier, car les cours de ce Master sont uniquement donnés en langue anglaise. Sur les 600 demandes, seulement 33 étudiants peuvent incorporer l'établissement pour devenir, au sortir de la formation, des spécialistes internationaux du secteur viti-vinicole. Ludovic Terol de 48 FM est allé à leur rencontre.
33 étudiants pour 23 nationalités étaient cette semaine à Ispagnac, Argentin, Géorgien, Allemand, Américain, Éthiopien, Canadien. 33 jeunes réunis autour d'une même passion, le vin. Ces étudiants du Master européen Vinifera de Supagro Montpellier se sont rendus au domaine de Gabali pour embouteiller quelques 300 bouteilles labellisées cuvée Vinifera Pinot Noir. Un vin que la promotion précédente a sélectionné parmi une quinzaine d'échantillons de la région Languedoc-Roussillon. Écoutez Patrice Lallemand, coordonnateur pédagogique de ce Master.
On a recherché des vins de Pinot Noir un peu partout dans le monde, qu'on allait déguster en aveugle, et ce vin est sorti parmi les vins qui avaient été les mieux notés par les étudiants. Donc ensuite, on a discuté une offre commerciale avec les différents viticulteurs que l'on avait sélectionnés, et donc on a finalement retenu le choix de celui-ci, à la fois pour sa qualité organoleptique, mais aussi pour l'accueil qu'on pouvait réaliser dans le cadre de cette journée pédagogique. Alors c'est un vin de Pinot Noir qui est assez typique des productions de moyenne altitude qu'on peut trouver notamment dans le Languedoc-Roussillon. Ce sont des pinots noirs qui sont assez fruités, qui restent sur la fraîcheur. Donc on est sur un produit vraiment assez typique de ce qu'on peut produire en Languedoc-Roussillon quand on a un petit peu d'altitude.
Une reconnaissance, donc une fierté pour Sylvain Gachet, premier vigneron installé dans les gorges du Tarn en 2003. Vigneron qui s'est lancé dans ce pari un peu fou avec quand même quelques incertitudes.
Oui, c'est une reconnaissance, hein. C'est très satisfaisant et puis ça fait connaître la région, ça fait connaître le département de la Lozère. On a un super beau terroir à vignes, donc c'est vrai, c'est une réelle reconnaissance de ce côté-là. C'est tout du travail en coteau, avec des terrasses, donc où c'est tout manuel. Et donc oui, par rapport à ça, c'est assez difficile. On savait très bien que les vignes poussaient bien, qu'on allait faire du vin sans problème. Il y avait des incertitudes quant à la qualité des vins par rapport aux cépages qu'on allait mettre. Donc ça a été une découverte d'année en année, on continue de découvrir.
Leandro Nossa, l'Argentin, a travaillé et étudié en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada et a ensuite sauté sur l'opportunité de venir étudier dans ce master en Europe à Montpellier et a donc atterri cette semaine à Ispagnac. Alors que pense-t-il de cette visite et qu'aimerait-il faire plus tard? La réponse de Leandro Nossa.
I think it's interesting to visit the...
C'est intéressant de visiter différentes petites régions et pas seulement celles que l'on voit tout le temps à la télé. C'est beau, j'ai grandi près des montagnes et cela me rappelle un petit peu l'endroit où je suis né. Je voudrais être viticulteur dans une petite exploitation pour produire et essayer de vendre mon propre vin. J'aimerais faire ça en Argentine ou au Canada, car j'ai vécu là-bas pendant quelques années. Je pense qu'il y a plus de variétés ici, beaucoup plus d'options, différents styles de vin qu'en Argentine. Là-bas, on apprend encore.
Emanip vient du Canada, mais à l'origine indien, avec un parcours pour le moins atypique. Il a travaillé en Inde dans la sidérurgie pendant 15 ans avant de se recentrer sur sa passion.
Je pense que j'ai toujours eu une passion pour les plantes. Je n'étais pas vraiment satisfait à 100% quand je travaillais dans l'industrie de l'acier. Pour quelqu'un qui vient d'un pays qui n'a pas la culture du vin, je trouve ça très intéressant de voir comment on fait le vin, les différents vins produits à partir de même cépage, de même raisin. J'ai découvert la viticulture un jour, ça a changé ma façon de penser et je savais que tôt ou tard, je quitterais l'usine.
Et les étudiants vont revenir d'ici à 15 jours pour les vendanges.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Comment développer l'économie sur un territoire rural aux portes de Nîmes et Montpellier, tout cela par le biais d'une collectivité toute jeune qui a vu le jour au 1er janvier 2013. C'était la question qui était au cœur des débats le week-end dernier à Sauve, dans le Gard. À l'invitation de la communauté de communes Piémont-Sévenol, de nombreux élus, mais aussi des entrepreneurs et des institutions se sont rassemblés pour essayer d'y répondre. Olivier Gaillard, président de cette communauté de communes, explique au micro de Radio Escapade pourquoi il a tenu à réfléchir sur ce sujet.
Dans le titre, c'était quelle stratégie pour notre territoire. Au-delà, je dirais, du contexte économique, on s'aperçoit qu'il y a des entreprises de qualité, il y a une volonté politique, une volonté des partenaires, des chambres et autres, de pouvoir répondre à la demande, de pouvoir répondre à un développement et un aménagement de ce territoire de façon réfléchie. Et aujourd'hui, dans le compte rendu et à l'analyse et à la lecture des différentes interventions, on s'aperçoit que la difficulté majeure réside dans la réactivité. Réactivité au niveau des institutions, au niveau des collectivités, à pouvoir répondre favorablement et de façon très rapide aux besoins des entreprises. Parce que aujourd'hui, nous, la volonté, je dirais, d'aménager ce territoire, elle doit être confondue avec la volonté de créer. Je l'ai dit à un moment donné, en économie, il y avait un principe philosophique qui disait que il faut que la volonté imagine trop pour réaliser assez. Nous, je crois qu'aujourd'hui, la volonté d'imaginer trop, ce sont les entrepreneurs, pour réaliser assez. Et pour que nous, pour qu'ils puissent réaliser assez, il faut que nous, on les aide beaucoup. Et je crois qu'au travers d'un accompagnement politique, que ce soit technique, administratif ou financier, on se doit de les accompagner au mieux. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un territoire qui a une richesse patrimoniale, une richesse économique avec certains secteurs, une ouverture sur Alès, une ouverture sur Nîmes, Montpellier, avec un Piémont, avec une partie des Cévennes. Et je crois qu'on a un tout qui peut faire quelque chose de très bien pour les administrés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en se rencontrant, on veut réfléchir à un aménagement de territoire de qualité, mais qui réponde surtout aux besoins de la population. Et également renforcer à un moment donné les services publics. Parce qu'aujourd'hui, nos territoires sont défaillants en matière de services publics. Et notre volonté d'agir, elle va également toujours dans le même sens, c'est rendre un service public de qualité et arriver toujours à rendre un service public. Parce que rendre un service public, c'est bien. De qualité, c'est bien, mais surtout les pérenniser dans le temps. Et donc, avec les acteurs, avec les entrepreneurs, avec les collectivités, je crois qu'aujourd'hui, nous avons compris un message important qui est de dire, vous voulez réussir l'aménagement de ce territoire, travailler de façon pragmatique et réaliste et aller de l'avant. Et je crois qu'il y a des... Aujourd'hui, à un moment donné, il faut remercier les entreprises parce que je crois qu'ils sont avant tout le bras... Oui, c'est le levier de notre souhait, de nos actions politiques. Et il faut les remercier pour leur créativité, il faut les remercier pour leur engagement, des fois leur entêtement qui paye. Et moi, je crois que je m'inscris pleinement dans cette volonté d'associer le monde de l'entreprise, les acteurs institutionnels, les acteurs politiques pour faire de ce Piémont-Sévenol une terre d'accueil et surtout qui répondent favorablement aux besoins de nos populations. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu dans les chiffres de Pôle emploi, la majorité des cadres, je dirais, interviennent en dehors de notre territoire. Mais c'est vrai que de par le foncier, de par les loyers et autres, ils ont tendance à venir chez nous. Et pour éviter que l'on se retrouve avec des villes dortoirs, il faut créer de l'activité. Et il faut renforcer et pérenniser nos services publics. La réalité, c'est qu'au travers des services publics et de l'activité économique, on arrivera à garder nos populations.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère. Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Classé depuis juin 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des paysages culturels de l'agropastoralisme, le territoire Causse et Cévennes a reçu une experte de l'ICOMOS, un organisme indépendant chargé d'évaluer le bien après son classement. Pendant 5 jours, elle a sillonné un vaste périmètre de plus de 3000 km² qui s'étend sur 134 communes et 4 départements, l'Hérault, le Gard, la Lozère et l'Aveyron, avec une délégation menée par la sous-préfète de Florac, Christine Bonnard, qu'on écoute tout de suite.
Alors voilà, donc l'État français s'était engagé au moment de l'inscription de ce territoire à inviter une expertise d'un organisme qui travaille avec l'UNESCO, organisme indépendant, et donc cette expertise a eu lieu toute cette semaine. Alors, mais ce n'était pas une expertise au sens de contrôle, c'était une expertise de conseil, d'aide. Ça figurait dans la délibération de l'UNESCO pour nous aider à progresser sur le plan de gestion, à progresser sur le volet international et à justifier les limites géographiques du bien. Ben, ce qui s'est passé, c'est la rencontre avec les acteurs du territoire. Chacun a expliqué ce qu'il faisait, les difficultés qu'il y avait. On n'a bien sûr pas passé sous silence les difficultés. Et puis l'avenir, comment on continue à préserver ce label de qualité. C'est un label de qualité et de reconnaissance d'une valeur exceptionnelle avec la nécessaire modernisation de la vie qui est difficile quand même sur ce territoire. C'était ces rencontres, ces explications pour que l'experte comprenne bien comment on fonctionnait, comment on travaillait et comment on envisageait l'avenir.
Alors même si tout reste à faire avec la mise en place d'un plan de gestion, notamment sur le terrain, le classement UNESCO semble aujourd'hui être bien perçu par les acteurs locaux.
Moi, ce qui m'a particulièrement frappée, c'est que tous les acteurs qu'on a rencontrés, absolument tous, sont très fiers de cette inscription, parce que c'est une reconnaissance, en fait, du travail qu'ils ont mené, eux et leurs ancêtres. Ils estiment qu'en fait, cette inscription, c'est peut-être, ça va les lancer dans une nouvelle dynamique. Et donc, ils sont prêts à travailler avec nous. Ce qu'il faut qu'on trouve, c'est l'équilibre. L'experte a dit pendant la conférence de presse, l'évolution appropriée, c'est tout à fait ça. L'équilibre entre une vie qui bouge, parce qu'on est un paysage évolutif, une vie qui bouge et un label exceptionnel qui reste maintenu. Voilà, alors le travail, c'est effectivement continuer la coordination des acteurs et encore plus. Donc le préfet de la Lozère, en tant que coordinateur, est le responsable de ce plan de gestion et il a délégué à l'entente interdépartementale, donc constituée des 4 départements du bien, l'animation quotidienne, la gestion quotidienne. L'objectif maintenant, c'est de finir de rédiger notre plan de gestion et de mettre en œuvre les actions. Ce qui fait l'inscription, c'est les paysages de l'agropastoralisme. Notre objectif, c'est à la fois de travailler sur l'agriculture, avec les chambres, bien évidemment, et l'ensemble des associations et des syndicats d'éleveurs, les conservatoires, pour préserver le patrimoine, les paysagistes, pour préserver le paysage, voir comment il évolue, et puis surtout, expliquer aux gens qui vont venir sur notre territoire ce que c'est que ce bien, pourquoi il a été inscrit, son exceptionnalité, et faire connaître les traditions, faire connaître les modes de travail, faire connaître la vie.
C'était un reportage d'Alain Mendez de Radio Lodev.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Le futur musée régional de la Narbonne antique, le Muréna, ouvrira en 2016. L'édifice est réalisé par l'architecte Norman Foster, qui a également réalisé le viaduc de Millau. Celui-ci s'appuie également sur l'aide d'un architecte de la région basé à Nîmes, Jean Capia. Ce dernier nous explique la vision qu'il avait de Norman Foster avant de travailler avec lui. Jean Capia répond à Éric Boyer d'RCF Pays d'Aude.
J'avais la vision d'une star internationale, de la World Company, de quelqu'un qui brassait des affaires. Mais après, dans son film, on voit très bien qu'il parle de sa meilleure des réussites, c'est son équipe. Et là, ça a fait, quand je l'ai revu aujourd'hui, ça a fait encore tilt de ma tête. Je me suis dit, c'est quand même hyper important qu'un type de cette envergure-là, même avec les exigences qu'il a sur lui, sur son corps physiquement, se dise que la clé, c'est un travail intelligent en équipe. Avec des connaissances croisées. Quand on est un petit peu tous en période de crise à un moment donné, de se reposer ces questions, de repartir un peu plus loin, aller rencontrer des gens qui font le même métier que vous à 1000 km, de tenter des choses à un moment donné, c'est très rafraîchissant et ça fait remettre les choses à plat, je dirais.
Et comme souvent dans pareil cas, le conservateur du futur Muréna a été nommé voilà 3 ans, Ambroise Lassalle. Le conservateur donc travaille en étroite collaboration avec les architectes pour l'élaboration du projet.
On échange de manière très régulière sur le projet parce qu'on est actuellement en phase active de conception et ça demande vraiment un travail régulier, des échanges fréquents sur la conception du bâtiment et sur la manière dont le projet doit se mettre en place. Pour l'instant, on est en phase d'études et on arrive à la fin, on espère en fin d'année arriver à la fin des études. Donc le projet sera a priori terminé dans sa conception en fin d'année. Et les travaux devraient commencer l'année prochaine, au printemps prochain, pour une période d'à peu près 2 ans. Alors c'est vrai qu'on essaie de retrouver, en tout cas de transposer dans un nouveau lieu, l'impression qu'on a lorsqu'on entre dans l'actuel musée lapidaire de Narbonne. Et alors on sait pertinemment qu'on ne pourra jamais retrouver exactement la même sensation, mais en tout cas on essaie de se rapprocher de ça. En tout cas on veut restituer le caractère un petit peu impressionnant, un peu massif de la collection lapidaire. Et c'est vrai que cette présentation se fera dans un espace qui, je pense, permettra d'obtenir ce résultat.
À lui seul, le futur musée régional de la Narbonne antique représente un investissement de 29 millions d'euros, à découvrir donc dans un peu plus de 2 ans.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Depuis 7 ans, le magazine L'Étudiant établit un classement des villes où il fait bon étudier en France. Pour cette année 2013, Montpellier se positionne derrière Grenoble et Toulouse et obtient ainsi une belle 3e place. Pour connaître les critères qui ont pu construire un tel palmarès, Maxine Triano de Radio FM+ a contacté pour nous Virginie Berthereau. Elle est journaliste à L'Étudiant mais aussi responsable de ce dossier.
Ce classement est basé sur 37 critères répartis en 9 thèmes qui vont des études à l'emploi, en passant par les sorties, le sport, la culture, les transports, l'environnement, le logement et le rayonnement international. Donc c'est tous ces critères qui font le palmarès. On peut chercher un peu en fonction des thèmes qui nous intéressent le plus. Est-ce qu'on est plus études? Est-ce qu'on cherche plus à avoir un emploi qui correspond à son diplôme? Est-ce qu'on est plus fêtard? Est-ce qu'on est plus intéressé par la culture? Donc on peut voir comme ça les classements thématiques. Alors Montpellier a beaucoup de points forts, c'est ce qui fait sa position. Donc il y a notamment les sorties, où la ville arrive 2e, les études 6e, l'emploi 5e. Et l'international, 11e, c'est plutôt très bien, d'autant que Montpellier ne fait pas partie de la catégorie métropole. Elle est juste la catégorie en dessous, grande ville, donc c'est une très très bonne place. Il faut savoir que Montpellier a gagné 11,9% d'étudiants en 10 ans, donc c'est une belle progression, et qu'elle compte 17,3% d'étudiants. Sur ce critère-là, précisément, elle arrive 3e. Il y a une forte population étudiante à Montpellier, j'imagine que ça se voit dans la rue, où donc presque un habitant sur 5 est étudiant. Et c'est ce qui fait qu'elle se positionne si bien dans le classement études. Ces points noirs, en fait, ce sont ceux des villes qui sont attractives. Elle a les inconvénients de ses avantages, c'est-à-dire qu'elle se classe moins bien en logement, forcément, 29e, c'est son plus mauvais classement, mais encore là, c'est pas exceptionnellement mauvais, parce que d'autres villes, surtout notamment Paris, arrive vraiment dans les dernières places. Les transports, 20e, et les sports, 18e. C'est-à-dire qu'il y a encore des efforts à faire sur les infrastructures à créer. Et puis pour les transports, c'est surtout l'abonnement pour les jeunes qui peut être amélioré. À l'exemple de Toulouse, où on a 100 € l'année pour des transports illimités.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
L'aquarium Mare Nostrum de Montpellier n'a pas encore soufflé ses 6 bougies qu'il célèbre déjà son 2 millionième visiteur. Et ce sont des visiteuses qui ont tiré le bon numéro. Elles sont 2 parce qu'on ne pouvait pas vraiment les séparer. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit d'Anne Courteau et de sa toute jeune fille Clotilde. Ces 2 chanceuses ont eu droit à une visite privée gratuite où elles ont pu nourrir certains animaux et en caresser d'autres. Anne Courteau, la maman qui est une habituée du lieu, commence par nous expliquer ce qui l'a amenée ici la première fois.
C'était la diversité des fonds marins et faire connaître à mes enfants l'existence des espèces de poissons et d'animaux marins sur la planète.
On va demander à Clotilde ce qu'elle pense de cette fête, puisqu'on lui a demandé de nourrir les petits poissons tropicaux. Clotilde, comment est-ce que tu as fait pour nourrir les petits poissons de toutes les couleurs, les poissons tropicaux?
Je lui ai donné des crevettes.
Du brocoli?
Du brocoli, oui.
Oui.
Et puis aussi des petites moules et aussi des petits poissons.
Et est-ce que tu aimes l'aquarium?
Oui.
Oui. Et qu'est-ce que tu préfères dans cet aquarium?
Je préfère tous les poissons.
Et voilà, Clotilde et sa maman, les 2 000 000e visiteuses de l'aquarium Mare Nostrum, qui répondaient au micro de Camille Tabet pour Radio Aviva. L'aquarium qui devient ainsi le premier site touristique payant du Languedoc-Roussillon, avec une fréquentation moyenne de 340 000 visiteurs par an, dont la moitié sont héraultais. Mare Nostrum se porte d'autant mieux qu'un nouveau record de fréquentation estivale a été battu cette année, avec 106 286 visiteurs entre le 6 juillet et le 2 septembre 2013. Voilà, on arrive à la fin de ce numéro de Carnet de Région, magazine hebdomadaire des radios associatives du Languedoc-Roussillon. Merci de l'avoir suivi et merci à tous ceux qui ont aidé à sa réalisation. Le prochain Carnet de Région, c'est la semaine prochaine. D'ici là, très bonne semaine à tous.
Carnet de Région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.